Bonjour, bonsoir, vous êtes sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit, avec Nicolas,
et Johnny,
et Farouko.
Et cette semaine, on va parler d'une manifestation de solidarité avec les locataires du Journal de Montréal. On va parler du 6 décembre, tant au point de vue historique, brièvement, que 6 décembre à Québec cette année, ben, il y avait une grosse mobilisation étudiante et des grosses rencontres gouvernementales pour parler de hausse de frais de scolarité.
Moi, je vais parler de la sous-traitance qui est risquée selon le SPGQ, puis je vais aussi parler du Canada qui n'a aucun plan sur l'environnement selon le commissaire à l'environnement du Canada.
Oui, puis moi, je vais faire parler les caisses de son de votre salon. Yeah! On va commencer avec une exclusivité, un groupe de Toronto qui aurait dû normalement passer par Québec, mais il y a eu problème, alors ils ont juste passé droite. Mais j'ai ramassé des disques, c'est The Delinquents avec Criminalize the Poor.
Criminalize, criminalize, criminalize the poor. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. It's just a way we criminalize the poor. Criminalize, criminalize, criminalize the poor.
One, two, three, four!
We had our dinners, prisons in the 17th century. Stole men all with our families just to feed our colonies. Well, those ones left behind, yeah, couldn't pay the way. It was indentured servitude or glorified slavery. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. It's just our way we criminalize the poor. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. Later in the 21st century, cut back our social spending, keep our profits up, baby. And as for all those homeless, don't you know they're all crazy? Let's put them all in prisons, yeah, we'll throw away the key. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. It's just our way, we criminalize the poor. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. Stays the same. Rich men's dangerous system benefits roll back again. And oh, you better pray that you do not fall behind. For if you can't pay for your freedom, you got a criminal mind. Yeah, criminalize, criminalize, criminalize the poor. Criminalize, criminalize, criminalize the poor. It's just our way.
Sur cette note punk rock, ma foi, plutôt classique, vous avez deviné que vous écoutez CKIA 88.3 à Québec, c'est Voix de fait, et on continue avec l'actualité.
Samedi le 4 décembre dernier, des milliers de personnes, 2000 personnes selon Canot et plus de 10 000 selon le service d'ordre de la CSN, ont pris la rue en solidarité avec les locataires du Journal de Montréal. Les manifestations de solidarité de cette ampleur dans les conflits de travail dans le secteur privé sont assez rares pour être soulignées. Claudette Carbonneau, présidente de la CSN, s'est notamment adressée à la foule qui rassemblait des syndicalistes de toutes les centrales.
En toute solidarité, on est venu aujourd'hui offrir le plus gros bisou de solidarité aux 253 locataires du Journal de Montréal et à leurs familles. Il faut aussi que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités. C'est devenu un jeu d'enfant que de traverser de façon virtuelle les piquets de grève. C'est un jeu qui débalance complètement le rapport de force, qui écrase les travailleurs et qui empêche la négociation.
On écoute Rénal Leblanc, président du syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal.
Je veux vous souhaiter la bienvenue chez nous, parce que depuis 680 jours aujourd'hui, chez nous, c'est le petit parc qui est à côté. Chez nous, c'est les bureaux de rue Frontenac qui sont là-bas, et depuis 680 jours, ce n'est plus la bâtisse qui est en arrière de nous. Je voudrais vous remercier au nom, personnellement, au nom des 253 locataires, au nom des locataires des services, des petites annonces, de la comptabilité, de la mise en page, de la promotion de la téléphonie, au nom des graphistes, au nom des commis, des messagers, des adjoints, des téléphonistes, au nom des archivistes, au nom des statisticiens, des réviseurs, au nom des infographes, des photographes, des journalistes, des chefs de pupitre et du caricaturiste. Je vais vous dire 10 000 fois merci.
C'était un montage sonore de voix de fait réalisé à partir d'une vidéo de la CSN.
Ouais, donc, c'est ça, il y avait une manifestation de la CSN. On a pu remarquer sur les vidéos qu'il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de gens. Mais une grande, grande diversité syndicale, sauf que, bon, à peu près personne des autres mouvements sociaux. Alors, on voyait des gens de la FTQ, de la CSQ, des différents syndicats, mais pas de bannières d'associations étudiantes, de groupes populaires, de groupes féministes, etc. Il y avait aussi plusieurs personnalités qui sont allées donner un appui. Certains se sont permis de faire de l'humour, et puis... Mais en fait, il y en a un que moi j'ai trouvé plutôt comique là. C'est le maire du plateau Mont-Royal qui est allé sur stage donner son appui et qui a dit qu'il avait envoyé des inspecteurs au Journal de Montréal, comme il le fait dans plusieurs commerces du plateau, et que leur rapport indique que c'est plus un journal, mais un catalogue publicitaire, qu'on y fait la promotion de marchandises, mais aussi des idées du boss déguisées sous la forme d'articles. Et à la suite de ce rapport-là, ils ont fait une recommandation à Santé Canada d'afficher, comme sur les produits nocifs et les cigarettes, un avertissement indiquant clairement qu'il y a un risque de toxicité sur le produit. Je trouve ça assez drôle pour le souligner. Si vous voulez voir la vidéo, ben vous allez sur Vimeo et vous cherchez CSN. C'est un des vidéos de la CSN. C'était assez intéressant. Sinon, je voulais vous parler du 6 décembre. Bon, cette année, le 6 décembre, à Québec, ça a été une très grosse manifestation étudiante dans le cadre, contre, en fait, la hausse des frais de scolarité qui est en discussion dans une rencontre des partenaires de l'éducation. Et mais le 6 décembre, historiquement, c'est d'autres choses aussi. En fait, au Québec, c'est d'habitude la journée nationale contre la violence faite aux femmes à cause du 6 décembre 1989. Alors, qu'est-ce qui s'était passé le 6 décembre 1989? C'est la tuerie de l'école polytechnique qui avait emporté 14 jeunes femmes, pour la plupart étudiantes en génie, qui ramène dans nos esprits et nos cœurs le sens tout particulier que prend pour les femmes la notion d'accès à l'éducation. Parce que, bon, c'est ça, la ministre est un peu spéciale là, de faire ça un 6 décembre sans rencontre. Et 21 ans après cette date, la haine contre les féministes et les pionnières des secteurs non traditionnels demeure bien réelle. L'antiféminisme se porte bien et est soutenu par des hommes qui voudraient bien qu'on reste à la maison, que les femmes restent à la maison. En fait, je suis en train de... de vous résumer, je vais pas vous le résumer, je vais vous lire, c'est Cause commune Express, un journal anarchiste publié par notre organisation qui a été diffusé justement dans la manifestation. Donc, trop souvent présenté sous un angle psychologisant du tueur fou ou du malade vivant des échecs répétés avec les femmes, la tuerie représentait pourtant bel et bien un acte de haine contre les femmes. En effet, l'auteur du sinistre geste avait hurlé « Vous êtes une gang de féministes, jaillis les féministes » et en plus d'avoir laissé une lettre où ses motivations clairement antiféministes étaient exposées. Or, les médias ont largement dépolitisé et détourné l'événement de sa portée antiféministe en peignant le portrait d'un homme en désarroi ayant des problèmes liés à son identité masculine. La commémoration de la tuerie de Polytechnique doit nous rappeler que la haine que peuvent susciter les femmes scolarisées reste d'actualité, que l'œuvre de l'assassin du 6 décembre 1989 est à la fois une manifestation et un catalyseur de la montée des antiféminismes, dont certains chantres ont tenté de réhabiliter le tueur en le héroïsant, en fait, en le transformant en héros. Que lorsqu'on parle d'accessibilité à l'éducation, les femmes, des femmes, outre l'éducation publique et gratuite, rêvent d'un monde où toutes les possibilités seront ouvertes et où nous n'aurons plus à craindre de prendre la voie qui nous plaît pour par crainte de représailles, de haine, de préjugés et de stéréotypes. Et d'ailleurs, on voulait souligner que si le tueur n'est pas nommé, on sait tous de qui il s'agit, ce n'est pas de lui, c'est parce que c'est pas de lui dont on veut se souvenir, mais d'elle. Donc, toutes ces femmes-là qui ont été assassinées, soit Geneviève Bergeron, 21 ans, Hélène Colgan, 23 ans, Nathalie Croteau, 23 ans, Barbara Daigneau, 22 ans, Anne-Marie Edward, 20 ans, Maude Aviernik, 29 ans, Barbara Kloutznik-Widajevsidz, 31 ans, Maryse Lagagnan, 25 ans, Maryse Leclerc, 23 ans, Anne-Marie Lemay, 27 ans, Sonia Pelletier, 28 ans, Michel Rivard, 21 ans, Annie Saint-Arsenault, 23 ans, Annie Turcotte, 21 ans. Donc, c'est ça, on voulait quand même souligner que c'était culotté de la part d'une ministre de l'Éducation de faire une rencontre pour parler de hausse des frais de scolarité ce jour-là précisément. On va revenir sur la manifestation plus tard durant l'émission, mais bon, l'UCL voulait quand même souligner le 6 décembre 89, qui est quand même une chose dont il faut se souvenir.
Son chef de cabinet n'a pas dû y parler, fait qu'elle ne savait pas.
Ben, je ne peux pas croire qu'elle ne savait pas, en tout cas. C'est quand même spécial. Voilà. On met une toune, puis après ça, on passe aux nouvelles de Jeannie, ou on passe aux nouvelles de Jeannie tout de suite?
Bon, on met une toune.
Ouais, on met une toune. En plus, c'est une excellente toune pour essayer de nous changer un peu les idées. On va mettre Madness avec une de mes tunes préférées, une interprétation de la pièce Lola. Et non, c'est pas ça du tout. C'est trop bon pour que je la mette pas. C'est ici.
Cherry Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her my name and in a dark brown voice she said Lola.
just a week ago, and I ain't never kissed a woman before. But Lola smiled and took me by the hand and said, little boy, I'm gonna make you a man. And I'm not the world's most masculine man, but I know what I am. I'm a man.
Sur ces belles paroles, vous écoutez toujours Voix de Fée sur les ondes de CKR 88.3 et on continue en actualité avec Jenny.
Ça, c'est le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, le SPGQ, qui a compilé des chiffres en 2003 et 2009. Puis pour au sujet des dépenses en sous-traitance pour des services professionnels au gouvernement, puis se sont rendus compte que la sous-traitance est non seulement deux fois plus coûteuse, mais elle ouvre aussi la porte à des pratiques malhonnêtes, selon le SPGQ. Le syndicat-là estime aussi qu'il y a certainement eu des irrégularités dans l'octroi de certains contrats à l'externe, puis il déplore aussi que les gestionnaires publics ne peuvent plus embaucher le personnel nécessaire, puis aussi que le gouvernement perd le contrôle de ses projets lorsqu'il les remet entre les mains d'entreprises privées. On a juste à prendre l'exemple du CHUM en PPP, que finalement, un PPP, c'est on peut plus se rendre pas encore pas prêt, c'est projet pas prêt, ce que tu pensais qu'on pourrait dire comme surnom. D'après le président selon le président du SPGQ, la grande part des 2 milliards en sous-traitance sont liés au dossier d'informatisation, un secteur dans lequel les gestionnaires peuvent facilement se faire charrier par des gourous, pour avoir en d'autres termes. Et c'est un exemple des dérapages informatiques coûteux du réseau des services intégrés pour personnes âgées, du dossier Santé du Québec, et ça fait, je sais pas combien de, au moins un milliard, je pense, qui... Je ne sais pas combien millions de dollars qui sont engloutis là-dedans, puis on n'en voit pas la...
Ils pensent même, mais ils ont... laisser entendre cette semaine qu'il était vraiment même pas sûr de le continuer le truc, parce que c'était un ratio d'à peu près 50% du budget qui est déjà passé, puis le travail accompli représente près du quart. Il était comme non, on s'en va vers des dépassements de coups de fou, puis ça marche même pas vraiment bien.
Ah ben, c'est quand même assez hallucinant, là. L'informatique au gouvernement, c'est presque 3 milliards de dollars sur le budget qui va là-dedans. Ils sont allés là, récemment, là, ils vont faire une ouverture vers le logiciel libre en espérant peut-être pouvoir économiser un peu d'argent. Ça va dans le même sens que cette histoire-là.
Ça, puis là, la présidente du Conseil du Trésor, M. Courchamp, ben, elle indique que le chiffre de 2 milliards qui est évoqué par la SPGQ est trop élevé. Les autres ont dit que les budgets de fonctionnement du premier sous-traitance n'ont augmenté que de 733 millions depuis 2003. Selon ces mots, Michel Courchain, ben, 733 millions, c'est pas beaucoup, en tout cas. Puis, Mme Courchain ne nie pas que certains risques associés au recours à la sous-traitance dans la vie, il y a tout le temps des risques, c'est notre responsabilité de les gérer, de les minimiser. Puis, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, on regarde juste le secteur de la construction. Ouais.
Ces risques-là sont inutiles. Il y a un exemple aujourd'hui même de comment la sous-traitance, c'est coûteux et ponctuel, puis c'est dans un dossier de marde. C'est la ville a fait affaire avec qui pour étudier le cyberflanage. C'est pas de ses employés qui... Ça a coûté 140 quelques mille, puis c'est ponctuel. C'est pour l'enquête présentement. Ça veut dire que dans 2 ans, quand le coup va être passé... puis qu'on soit d'accord ou pas avec le supposé cyberflanage, il va falloir qu'ils recommencent ça. Tandis que, t'imagines, 140 quelques mille, c'est quoi, 3 ans de salaire d'un fonctionnaire en informatique?
C'est débile mental.
Mais ça, t'en entendras pas. T'sais, la radio de droite n'ira pas dire ouais, « on aurait dû engager un gars! »
Ben, c'est complètement débile, là. C'est énormément d'argent. Puis c'est aussi pour des niaiseries, là. Disons-le, il y a des employés... Je commenterai pas sur les cas des flics puis des pompiers là, qui s'échangent de la porno, mais il y a des employés, des employés de bureau de la ville qui ont eu des suspensions parce qu'ils avaient utilisé leur adresse courriel de la ville pour envoyer des courriels personnels, genre. Puis le pire, c'est que selon les personnes que je connais qui font du syndicalisme, c'est le genre de truc qui tiendra pas, là. Ils vont faire un grief là-dessus, puis dans 3 ans, il y a un arbitre qui va dire qu'une utilisation normale du courriel, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est correct, puis la sanction va sauter, mais plus personne va en parler, rendu
là. Non, Mais non, ça, c'est des petits entrefilets dans le soleil qui...
Non, non, c'est clair. Puis tu sais, comme un camarade le disait, il arrête pas de nous demander d'amener du boulot à la maison, mais essaye-toi pas d'amener de la maison au boulot.
Oh non.
Puis là, il y avait, c'est ça, Michel Courchamp qui s'entend discuter avec le syndicat des moyens pour attirer et retenir des jeunes professionnels au gouvernement du Québec. Mais moi, j'ai passé l'examen de la fonction publique, c'est tellement compliqué qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient rendus à sous-traiter parce qu'ils empêchent quasiment les gens de rentrer. Fait qu'à un moment donné, ben, t'es pas une fois de la sous-traitance. Bravo. Sinon, à l'international, ben un peu local puis international en même temps, c'est le Canada qui n'a aucun plan selon un rapport sur l'environnement. Ben là, parce que là, présentement, c'est le sommet de Cancun au Mexique sur comme la suite de la conférence qui avait foiré à Copenhague là, sur les changements climatiques. C'est le rapport automnal du commissaire à l'environnement canadien, Scott Vaughan, qui, selon lui, alors que les pays de la planète sont réunis à Cancun pour discuter d'une stratégie mondiale de lutte au changement climatique, un rapport publié hier mardi, révèle que le gouvernement canadien, lui, n'a toujours pas de plan national pour s'adapter et manque de leadership en la matière. Dans le fond, c'est pas surprenant. Le gouvernement a peu travaillé pour les pétrolières, puis l'environnement s'en crisse pas mal. Même si Ottawa s'est engagé à plusieurs reprises, le gouvernement n'a pas encore mis en œuvre de stratégie fédérale d'adaptation au changement climatique. Selon le commissaire dont l'étude a été déposée aux communes hier matin, l'absence de plan d'action du gouvernement nuit aux efforts des ministères pour coordonner leur action afin de faire face aux effets des changements climatiques. Puis ça, son constat quant à la réponse du gouvernement au changement climatique est sombre, dénotant un manque de leadership depuis 20 ans et une information inadéquate sur le sujet. C'est pire depuis qu'Harper est là, mais quand les libéraux étaient là, ben c'était pas mieux.
Ah, mais les libéraux, ils avaient signé Kyoto. Ils en avaient fait une loi. Ça veut dire un citoyen au Canada pourrait porter plainte à la police? Parce que Harper et ses gamins qui n'ont pas respecté la loi?
Je sais pas.
Sauf, ben non, comme on le sait déjà, la loi, ça s'applique pas à tout le monde.
Yep. Ben en fait, c'était des cibles, hein?
Ouais, mais c'était, il y avait mis une loi. Tu sais, je ne pouvais pas passer outre Kyoto. Puis c'était comme. Charest, chrétien avant de sacrer son camp. Il a vraiment délibérément foutu le bordel en sachant très bien qu'il n'y a aucun gouvernement qui était là, peu importe libéral ou conservateur, qui était prêt à faire les sacrifices. Il a signé pour avoir un bel héritage pour les livres d'histoire. Tu sais. Mais il n'a jamais été appliqué, il n'y a jamais rien, tu sais. Je veux dire, moi, si je décide que j'arrête de payer mes impôts, puis ça sera pas long, on va venir me rechercher.
Tu sais, il dit juste une anecdote comme ça concernant le Cancun. Ben là, Charest, là, il est ovationné. Là, c'est comme, oh mon Dieu,
il fait une belle affaire.
Je pense qu'il va avoir une forêt à son nom en Australie.
Oui, la forêt de Charest. Je sais pas si elle est collée, mais il y en a une à Schwarzenegger aussi. Yeah. Arnold.
Bon.
Fait que c'est tout.
Yes.
Zizek?
Ben oui. J'ai été chercher une vieille pièce d'un vieux groupe avec un vieil enregistrement. Vous devinerez bien c'est quoi. Assez des travailleurs, perdent des milliers de sans-terre, du pied le aurez deviné, c'était Jeunesse Apatride, avec une pièce que les gens n'écoutent pas si... Ben, en tout cas, une de leurs moins populaires, je dirais, qui est moins souvent demandée, et c'était Rideau de fer.
Oh! Sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec pendant l'émission Voix de fait. Donc, cette semaine, on peut pas passer à côté du 6 décembre 2010. Qu'est-ce que c'était le 6 décembre 2010? Ben, écoutez, c'était la rencontre des partenaires en éducation, rencontre des partenaires du secteur universitaire, en fait, qui avait été convoqué par la ministre de l'Éducation. C'est quoi son nom déjà?
Beauchamp?
Ouais.
Ouais, c'est ça, ce que je mélange, parce qu'avant c'était Courchaine.
Oui, enfin, mais bon, là, bref, c'est les libéraux, numéro 3 qui est là.
Les libéraux avaient annoncé dès le dernier budget qu'il y aurait une hausse de frais de scolarité à partir de 2012. Ils avaient convoqué en fait un peu tout le monde, mais pas tout le monde, on va le voir, pour parler de cette hausse de frais de scolarité-là. Les prémices étaient claires, il va y avoir une hausse de frais. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'on va augmenter les frais beaucoup ou pas assainément. Et donc c'était là-dessus que les gens étaient consultés. On en a parlé dans les dernières semaines pas mal. Le mouvement étudiant était divisé sur la question. L'Association pour une solidarité syndicale étudiante boycottait la rencontre et voulait la perturber, tandis que les autres organisations comme la FEC, la FERC, la TASEC et leurs alliés syndicaux, eux autres, ils ont peur comme la peste de la politique de la chaise vide. Donc, ils avaient décidé d'y aller, quitte à claquer la porte après ce qui est arrivé finalement. Donc, n'empêche, le matin... Le 6 décembre au matin, ça n'a pas empêché les différentes organisations, tant celles qui allaient à l'intérieur que celles qui boycottaient, de faire un point de presse commun pour annoncer leurs intentions pour la journée. Puis ben, d'ailleurs, on va entendre Gabriel Nadeau-Dufour, porte-parole de l'AC, lors de ce point de presse-là.
Il n'y a pas de consensus sur la hausse des frais scolarité. Il n'y a pas de consensus sur la privatisation de nos universités. S'il existe un consensus au Québec, ce n'est pas celui de la ministre, mais bien plutôt celui de la table des partenaires universitaires. Aujourd'hui, il y a certaines de nos organisations qui ont décidé de participer à la rencontre, d'autres qui ont décidé de boycotter. Quoi qu'il en soit, on est unanime pour dénoncer cette rencontre-là qui n'a absolument rien d'une consultation, mais qui est plutôt une vaste entreprise de relations publiques, une véritable mascarade qui ne vise qu'à légitimer une décision prise depuis longtemps, c'est-à-dire augmenter les frais de scolarité et augmenter l'arrimage de nos universités aux impératifs du marché. Les alternatives, là, elles sont nombreuses. On pourrait parler des redevances aux compagnies minières, des immenses entreprises multinationales qui nagent dans les profits, mais qui refusent de faire leur simple part en termes de financement des services publics. On pourrait parler des baisses d'impôts aux grandes entreprises, on pourrait parler d'évasion fiscale. Des solutions, il y en a. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des solutions, c'est est-ce qu'on a la volonté politique de les appliquer. Et cette volonté-là, actuellement, elle n'habite pas du tout le gouvernement libéral de Jean Charest. C'est une évidence.
Quand je vous disais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas présents sur place, qui n'avaient pas été invités, c'est notamment dans le cas de la Fédération des professeurs d'université.
Donc, mais voyons.
Ben, en fait, non, pas la Fédération des professeurs, c'est tout ça, c'est la FPPU. Enfin, bon, bref, Bernard Gaucher qui va nous expliquer ça.
Il y a quelques temps, on nous a fait parvenir le menu. Deux semaines après, on a reçu toutes les recettes. Donc, on prépare dans les faits, toutes les choses se préparent tranquillement. Et on veut nous faire dire qu'il y a discussion. Dans les ingrédients, on a beaucoup, beaucoup des gens du monde des affaires. Nous autres, moi et ma fédération, 2000 membres, on n'est pas à l'intérieur. Supposément parce qu'on n'a rien à dire. Pourtant, on est au cœur des universités. On sait qu'est-ce qui se passe. Et de l'autre côté, on préfère mettre dans la recette les gens du privé qui, eux autres, ont une raison, c'est une rentabilité de l'université.
Ben voyons, le privé, c'est l'avenir, man.
Le privé, c'est l'avenir. Mais c'est pas la vie de tout le monde. Il y a, dans les personnes qui étaient présentes à ce point de presse-là, du côté de celles, en fait, qui étaient plus... qui allaient participer à la rencontre, il y a la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, la CSN, il y a Marie Blais, qui dit que, grosso modo, ouais, il y a la question du financement, ouais, il y a la question des frais, mais il y a d'autres problèmes en éducation, puis c'est pour ça qu'ils pensent que ça prend pas juste une rencontre sur cette question-là. Donc, Marie Blais de la FNEC.
C'est évident qu'il y a des problèmes dans nos universités. Il y a des enjeux majeurs. On doit en discuter. L'ensemble des missions des universités n'est pas traité. C'est uniquement le point de vue comptable qui est abordé. Pour nous, c'est inacceptable. Ceci dit, oui, on veut un débat libre, démocratique, et c'est pour ça qu'on en appelle à des états généraux sur l'université québécoise, ouverts à tout le monde et pas avec de la police.
Et donc, voilà. Les personnes sont allées à l'intérieur. Celles qui avaient allé à l'intérieur sont allées et celles qui boycottaient ont boycotté. Il y a eu manifestation et tout et tout. Puis finalement, sur l'heure du midi, les membres de l'Alliance sociale qui, rappelons-le, regroupe essentiellement la FEC, la FERC, les trois principales centrales syndicales et quelques gros syndicats indépendants. Donc, tout ce beau monde-là qui refusait la politique de la chaise vide ont fini par claquer la porte pour ne pas cautionner ce qui était en train de se discuter là. Et puis bon, j'aurais pu choisir d'aller chercher une quote de la FEC ou de la FERC, mais là, quand même, on t'a voix de fait. J'étais allé chercher Claudette Carbonneau de la CSN parce que ça me faisait trop chier de faire parler la FEC à voix de fait.
L'intervention qui a suivi le départ de tout le monde de la part du ministre des Finances nous confirme la justesse du geste qui a été posé. Il nous a dit qu'il ne comprenait pas ce départ-là parce que pour lui, c'était très clair que la convocation ne visait qu'un débat sur les modalités de hausse des frais de scolarité et qu'il considérait que tout le monde qui était autour de la table partageait cette perspective-là. Alors, au fond, rester là 5 minutes de plus, c'était cautionner l'indéfendable. Et ça, on est tous très fiers du geste qu'on a posé.
Ils en sont très fiers. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? On ne le sait pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ça leur a attiré beaucoup de couverture médiatique. Ce claquage de porte, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la manifestation. Alors, écoutez, j'ai feuilleté les journaux et ça va de quelques centaines de personnes qui participaient à la manifestation à 600 000 personnes. Je te jure, dans le soleil, en dessous de la photo, c'était marqué « Il y a 600 000 étudiants en grève, mais il n'y a pas 600 000 étudiants au Québec. » Enfin, bon.
Malin.
À moins qu'on inclue les étudiants de secondaire. Dans le texte,
peut-être le primaire, la maternelle aussi.
Oui, dans le texte, il se corrigeait en disant « Il y a 60 000 étudiants en grève. » En fait, c'est plutôt rigolo parce que d'habitude, lors d'une manifestation, les organisateurs ont tendance à gonfler les chiffres. Et puis là, l'AC avait envoyé un communiqué en disant l'AC attend 2500 étudiants sur la colline. Alors les médias qui ont lu le communiqué puis tout, ils ont mis 2500 parce que bon, il y avait beaucoup de monde, sauf que dans les faits finalement ça a monté jusqu'à presque 5000. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, mais il faut savoir que cette fois-là, la grosse manifestation qui était organisée par l'AC, il y avait pas juste l'AC qui était présente, il y avait aussi il y avait mis de leur côté l'Association des étudiants en sciences sociales de l'Université Laval. Ils avaient mis de leur côté aussi d'autres associations de l'UQAM, des associations facultaires de l'Université de Sherbrooke. Et il y a plusieurs associations collégiales, notamment de Québec, de Limoilou et de Fix-Garneau, qui se sont joints à la manifestation sans toutefois avoir participé nécessairement à l'organisation. Mais en tout cas, bref, nous aussi, on était là avec une nouvelle coalition là, de Québec, des groupes sociaux, les groupes en fait, la coalition opposée là, à la tarification et à la privatisation des services publics. Parce que, ben justement, on pense que c'est pas dans les grandes négociations que ça se passe. Il faut pas s'asseoir avec les gouvernements. C'est pas dans la concertation, c'est dans la rue qu'on va arriver à quelque chose. Et justement, j'ai oublié de dire, les quotes de tantôt, je les ai pris dans une vidéo de la CSN. Faut le dire, c'est pas moi qui est allé les prendre à 7h30 le matin.
C'était bien enregistré.
C'était pour ça que c'était bien enregistré. Mais ceci dit, Voix de fait était sur place et on a aussi du matériel original que nous allons entendre à l'instant. Alors c'est François qui nous a ramené de quoi sur cette manifestation qui était, ma foi, très importante, faut le dire, un 6 décembre en fin de session, mobilisé plusieurs milliers d'étudiants
pour venir
à Québec en pleine tempête de neige. C'est quelque chose.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Alors, nous voilà une fois de plus dans la rue. On va rejoindre la manifestation de l'AC calée devant l'Assemblée nationale à 13h. Il y a des étudiants de partout dans la province. Il y a des gens de Chicoutimi, il y a des gens de l'Outaouais, il y a des gens de Montréal, bien sûr. Donc, des gens partout dans la province qui sont venus à la rencontre des partenaires en éducation pour dénoncer cette consultation bidon. L'AC a annoncé qu'il y avait 2500 étudiants dans la rue. Donc, on va aller entendre ce que les étudiants ont à dire là-dessus. Donc, l'ASS est présent aujourd'hui sur place. Qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui?
Justement, on est comme avec les milliers d'étudiants, on l'espère, qui vont être là pour lutter contre le budget charret, contre le budget bâchant, pas pour le gel des frais de scolarité.
C'est, vous êtes contre l'échelle, ça veut dire que vous êtes, vous proposez pas la gratuité, c'est contre l'échelle tout simplement?
Non, pour le moment, en ce moment, on est pour le gel, mais c'est sûr que on veut la gratuité scolaire.
Est-ce que vous avez été invité, vous autres, dans la rencontre des partenaires de l'éducation avec le gouvernement, tout ça, dans le palais des congrès?
Non, pas du tout. Il y a des représentants de la TASEC qui vont être là, mais la SS, non, on n'a pas été invité.
Pourquoi?
Ça, je peux pas te le dire. On n'est pas assez important. On prend la rue en ce lundi pour justement manifester qu'on est là, qu'on est présent, puis qu'on va les talonner jusqu'au temps qu'ils vont refuser de faire d'appliquer leur budget.
OK. Puis est-ce que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé en Europe les dernières semaines dans les mouvements étudiants en France, en Angleterre, tout ça?
Oui, en Grande-Bretagne, justement, qui veulent passer les frais de scolarité, les triplés, aller à 15 000 $ oui. C'est sûr qu'on se sent solidaire avec tout ça. On n'est pas les seuls en ce moment. Eux, ça, la Grande-Bretagne, ce serait 15 000 $ Donc, c'est sûr qu'on suit ça en même temps. On fait passer le mot, puis c'est une genre de solidarité un peu avec les autres étudiants partout dans le monde.
À bas, esprit, jamais ne s'arrête.
Donc, salut. Donc, l'UCL est là. Qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui?
Bien, on vient tenter d'aider, dans le fond, l'AC à perturber cette rencontre-là. On trouve que ça n'a pas de bon sens, puis l'éducation, ça se négocie pas, c'est un droit. Donc, on est là pour venir perturber cette rencontre-là, les partenaires d'éducation.
Puis là, depuis ce matin, ça a brassé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu des lignes de pitage ce matin. Dans le fond, le but, c'était de montrer une présence dès le début de la rencontre, parce qu'il y a une manifestation à 13h, mais là, c'était le matin, pour bloquer, dans le fond, les syndicats qui ont des mandats de ne pas traverser de ligne de pitage. Fait que le but, c'était de les bloquer tout de suite. Finalement, ça n'a pas pris 15-20 minutes que l'anti-émeute a débarqué, a tassé les gens. Les groupes corporatifs, comme les fédérations étudiantes, par exemple, ont attendu que les gens soient tassés pour traverser, dans le fond, et dire « Ah, il n'y avait plus de ligne de pitage, donc on participe. » Fait que pis ça, puis il y a eu une arrestation aussi ce matin, là, d'un étudiant en fait qui s'est fait pousser dans le dos par des flics répliqués, donc voie de fait sur un agent de la paix, on croit qu'il va être accusé. Donc.
Il a répliqué comment exactement?
En fait, il s'est fait donner un coup de matraque dans le dos, puis il a lancé son verre d'eau, suppose, ce que j'ai entendu. J'étais pas présent, dans le fond, là, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, voie de fait sur un agent de la paix.
Mais la manif, est-ce qu'elle était pacifique au début? Ou...
Oh, oui, ben, c'est un pitage symbolique surtout.
Puis la police s'est donné qu'un choix à la matraque, là.
Ouais, tassait les gens à coup de matraque. Puis finalement, les gens. Il y a eu une menace de se faire. Parce qu'il y avait une ligne de pitage à l'intérieur aussi. Il y a eu une menace de se faire, dans le fond, fermer les portes à l'intérieur. Donc, ils ont décidé de sortir là, suite aux menaces des policiers.
Est-ce que tu as suivi un peu ce qui s'est fait au niveau international, en Europe, par exemple, dans le mouvement étudiant?
Oui, tout à fait. Ouais. Puis, ben, c'est des exemples à suivre, je crois. Là. C'est parce qu'à un moment donné, c'est une attaque internationale. Là. Le capitalisme, c'est international. Puis, c'est toujours d'aller gruger plus de parts de marché, entre autres en éducation. Autant ici, quand on se bat ici, ben, on aide autant les gens à l'international à se battre. Puis, c'est vice-versa. Donc, c'est des mouvements à soutenir le plus qu'on peut, je crois.
Est-ce que vous êtes pour la gratuité?
Oui.
Oui. Est-ce que vous sentez que c'est une position qui est partagée par l'ensemble des étudiants ou par vos associations?
Par 100% des étudiants. Par 100%.
Même, voilà, je dirais. Qui va refuser à la gratuité quand même?
C'est qui vos associations étudiantes à vous?
ASSE, c'est ça, non? AC.
L'AC.
Ouais, c'est ça.
Et
la FECOM. Donc on est là pour faire entendre nos voix et crier et défoncer nos poumons et jusqu'à ce qu'ils nous entendent et espérant qu'ils ne vont pas hausser les prix.
Et pourquoi justement la gratuité? Pourquoi?
Pourquoi la gratuité? Tu dirais non à un free meal? Quand même. Ben si t'as la gratuité, tu n'auras pas de dette et les cours seront moins chers. Et bon, gratuité, c'est pas un coup. Donc ça nous aidera financièrement aussi. Et c'est ça.
Tu vas acheter quelque chose?
Moi, je disais que l'éducation, c'est un droit. Donc, et non un privilège. Voilà.
L'éducation, c'est un droit et non un privilège.
C'est ça. Oh, c'est bien dit, ça.
Ce que ça veut dire, c'est que...
L'éducation, c'est un droit!
Non un privilège!
L'éducation, c'est un droit et non un privilège! L'éducation, c'est un droit et non un privilège!
Est-ce que c'est la première fois que tu milites?
La première fois au Québec, oui. Mais pas la première fois en France, j'étais très mobilisée.
Est-ce que tu vois un parallèle entre la lutte des étudiants au Québec et en France?
Pas vraiment. Je trouve que c'est différent. C'est peut-être ici c'est plus démocratique, mais il y a moins une mobilisation moins massive, je trouve. Puis c'est vrai qu'on nous donne pas vraiment les moyens d'aller aller manifester. Ça va être le fait de payer les cours, qui est là, c'est la fin de session. Je pense que ça les arrange aussi.
On veut rendre la dette au gouvernement. Comment on la rend? Hein? S'il vous plaît.
La seule étudiante de Garneau est ici.
On vient dénoncer cette espèce de merde qui est supposée être une consultation publique alors que toutes les décisions sont prises d'avance. On vient aussi pour dénoncer les hausses de frais de scolarité qui sont prévues à partir de 2012.
Au cégep de Garneau, vous avez eu des consultations sur la grève, des votes. Qu'est-ce qui s'est passé?
On a eu une... Dans le fond, on avait une opinion de la population étudiante qui souhaitait se rapprocher de la grève étudiante. On a fait une assemblée publique pour voir si les gens étaient vraiment désireux d'une grève. En ce moment, ça envisage une grève pour la prochaine session. Et pour aujourd'hui, on essaie comme on peut d'obtenir des résultats.
Est-ce que vous avez suivi un peu ce qui s'est fait ailleurs en Europe, par exemple dans le mouvement étudiant?
Ben, c'est sûr qu'il y a une image très forte qui est arrivée en Grande-Bretagne avec l'assaut carrément par les étudiants d'un local conservateur.
Là, on est le 6 décembre, rencontre des partenaires à l'éducation. Est-ce que après ça, c'est fini pour le mouvement étudiant? Est-ce que c'est calmé après?
À vrai dire, non. C'est un début. C'est le début de la fin. Il va y avoir des moyens de pression qui vont devenir de plus en plus grands. Je suis convaincu qu'on va arriver parce qu'à date, on réussit généralement nos combats. Ce serait peut-être le temps que Charest, ça ouvre les yeux puis réalise qu'il y a des endroits un petit peu plus intéressants à aller chercher des fonds qui se perdent, tels la poche de quelques-uns de ses amis. En tant que tel, juste le principe d'augmenter les frais de scolarité, c'est pas payant. L'investissement en éducation, c'est toujours avéré quelque chose de gagnant, tant au niveau du développement économique qu'au niveau du développement humain. On fait juste regarder, depuis les années 70, le Québec, malgré tout ce que les réseaux comme Réseau Liberté Québec veulent dire, le Québec est vraiment mieux foutu à tous les niveaux de développement.
Salut Annie, donc t'es là depuis un matin?
Oui, on est arrivé à 11h moins 10, moins quart.
Vous viens d'où?
De Hull. L'Université du Québec en Outaouais.
C'est combien d'heures de route, ça?
C'est 5h30, 6h à peu près. On est les premiers à être arrivés. Les policiers étaient déjà derrière les barrières, puis ils nous attendaient avec des matraques, puis il n'y avait personne.
Mais c'est ça, vous étiez combien par rapport aux policiers? Il y en avait combien à peu près?
Je te dirais, il y avait à peu près 2 policiers pour un étudiant.
Pourquoi est-ce que tu es là ici aujourd'hui?
Moi, c'est surtout pour payer moins cher l'école. Puis aussi, il y a les services sociaux qui sont là-dedans. Puis moi, ce que je suis pas d'accord, c'est de commencer à tout privatiser parce que cet argent-là, elle pourrait être mis dans l'éducation ou dans les services sociaux. Avant, j'étais à l'Université Laval, mais là, je suis rendue à Hull parce que ça me coûte vraiment moins cher d'étudier là-bas. Je suis au bac en enseignement des arts plastiques.
Ça, c'est un des domaines qui va souffrir de l'accessibilité si les frais montent, là.
Vraiment. Oui, mais c'est pas juste nous, c'est les futurs élèves, c'est nos enfants, c'est la génération plus future.
Tu parlais des programmes sociaux aussi, fait que c'est au-delà de la lutte des étudiants, c'est plus que ça.
Moi, je trouve que c'est à peu près le même combat parce que c'est à peu près les mêmes choses qu'on réclame. C'est le droit à la scolarité puis le droit de se faire.
On va pas se laisser faire.
Et hey, depuis ce reportage-là, on a appris quand même c'était qui s'était fait arrêter. C'est Jocelyn Leroux, étudiant à l'UQAM, qui est arrêté effectivement parce qu'il aurait échappé un verre d'eau sur le policier matricule 2013. Donc c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que en tôt le matin, ils ont essayé de bloquer la rencontre, mais ils se sont fait mettre en infériorité numérique. Et on voit bien dans la vidéo de la CSN, là, les étudiants se faire sortir de la place. C'est pas doux, disons. Puis aussi, autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de journée, en après-midi, de l'extérieur, on a vu qu'ils étaient rentrés, en fait, à la halte bouffe de la place, sauf que en fait, ils avaient fait du repérage, puis ils avaient trouvé un escalier de secours qui donnait directement dans la salle de la rencontre. Et quand ils ont fait irruption, enfin, bon, bref, l'anti-émeute était là. Donc, comment je dirais, il y a des centaines de manifestants qui ont, là je me base sur un texte de Alain Savard qui dit « Gouvernement subit un revers 4-3 face aux étudiants ». Donc, des centaines de manifestants déjouent la police anti-émeute et pénètrent dans le centre d'achat qui se trouve directement sous le Hilton. Une centaine d'entre eux montent alors un escalier de secours qui donne directement dans la salle où se déroulait la rencontre des partenaires. Il n'y reste alors que la ministre, les recteurs et les organisations patronales. Paniqués et débordés, le gouvernement a envoyé les gros défenseurs sur le front, profitant de moment d'absence des arbitres, les gardiens ont solidement frappé les étudiants à coups de bâton. Les blessés ont alors dû renoncer à cette attaque surprise. Somme toute, un point était clairement marqué de chaque côté. Et de l'intérieur de la salle, on pouvait clairement entendre la centaine d'étudiants qui étaient à deux pas de réussir de perturber la rencontre. Et en fait, ben c'est ça, c'est que...
Ils ont réussi à rentrer, puis les gens qui se sont sauvés, c'est-tu par où ils sont sortis?
Non.
En arrière de la ligne d'anti-émeute d'or. Mais enfin, qu'ils sont remontés derrière la police, puis la police savait plus quoi faire.
Ben non, mais je comprends qu'ils savaient plus quoi faire. Mais c'est ça. Enfin bref, c'est pas assez proche, mais ça a pas réussi. En fait, les actions étudiantes, c'est toujours le fun parce qu'ils sont très 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 massives, mais ça enlève un peu de souplesse tactique. Les gens savent pas ce qui se passe, puis voilà. C'est ce qui est arrivé aussi le 1er avril quand ils avaient décidé de rentrer dans le centre du commerce international à Montréal, puis que le mot circulait depuis une heure qu'il allait se passer quelque chose, mais que finalement, quand il s'est finalement passé quelque chose, tout le monde pensait que ça avait été annulé parce que ça n'avait pas eu lieu. Puis là, c'est la même chose.
Mais des fois, c'est dans la spontanéité. À Montréal, on a déjà passé à travers le St. James, qui est à peu près l'hôtel le plus riche de Montréal.
Ouais, c'est ça. Enfin, bon, bref, je sais pas comment est-ce qu'on peut organiser ces choses-là, mais ils sont passés à deux doigts de perturber la rencontre. Ils ont pas réussi, mais ils ont quand même mobilisé 3 à 5 000 étudiants. Allez, on s'en va en musique et au retour, on parle un peu de frais de scolarité avant de se quitter pour la semaine.
Rodney King, something extraordinary happened. The Bloods and the Crips, sworn gang enemies, circulated a leaflet. It urged their members to stop fighting each other and turn their chilling gang anger against the police and the rest of society.
The foot soldiers of fascists have always been working class. A kind of economic chaos. Strike, trouble, the fascists rear the ugly head, pretending to be the real radical opposition, when in fact they are the mercenaries of the rich, hired by the rich to maintain their social order. If only we as a class could realize that it's pointless fighting between black and white, Protestant, Catholic, Jew, Arab, and that our interests lie in standing together. It's no good fighting for the crumbs that fall off the rich man's table. The smaller the crumb, the more violent the fight. It's no good stubborn patriotism looking down on cups. In Germany, in 1932, 1 year before Hitler came to power, he received only 20% of the vote. In 1992, in France, Le Pen's National Front received just over 14% of the vote. Remember, fascism doesn't start with concentration camps. That's where it ends.
Ouais, c'était Blaggers avec It's Up to You.
Ouais, et moi, pour le dernier bloc, je voulais revenir sur quelques trucs concernant les frais de scolarité. Écoute, il s'est dit, là, un nombre incroyable de niaiseries depuis quelques jours dans les médias. En fait, il faut reconnaître, là, il y a un travail idéologique très important pour amener l'opinion publique à accepter l'augmentation des frais de scolarité à l'université, présenter ça comme étant inéluctable, une question de gros bon sens. Puis là, ben là, il y a plein de choses qui se disent, puis on n'a plus le droit de dire le contraire, et il y a quand même... En fait, je voudrais démonter 2 ou 3 arguments à partir de l'IRIS et de la FNEC. Alors, on va aller avec l'IRIS d'abord. Il y a le concept de hausse équitable. On dit que c'est de l'équité intergénérationnelle que de hausser les frais parce que les frais de scolarité, ils sont bas depuis très longtemps. Puis donc, maintenant, on paye proportionnellement moins cher qu'on payait en 68. Donc, c'est pas équitable. Fait que pour être équitable, il faudrait augmenter les frais là, beaucoup plus. Les autres, ils disent, ouais, attends, il y a des choses là qu'il faudrait regarder là pour vérifier si la mesure est aussi juste et équitable qu'on le dit. Et là, on dit, prenons une femme de 20 ans qui entre à l'université en 1989. Ça, c'est l'année qui précède le premier dégel des frais de scolarité au Québec. Ses parents n'ont pas d'argent, fait qu'elle doit travailler l'été pour subvenir à ses besoins pendant l'année. Le salaire minimum, à ce moment-là, était de 5 $ de l'heure et les frais de scolarité annuels de 568 $. En 3 semaines de travail à temps plein, au salaire minimum, elle paye ses frais de scolarité. Ça travaille tout l'été, l'étudiante peut facilement s'acquitter d'une bonne partie de ses autres dépenses de l'année. Là, on fait un fast-forward, on arrive en 2007, juste avant le deuxième dégel des frais de scolarité. La situation est légèrement différente parce que les frais de scolarité sont rendus à 1 700 $. Bon, le salaire minimum a aussi augmenté, mais pas aussi vite que les frais. Alors, la même universitaire doit donc travailler un peu plus de 5 semaines pour payer ses frais de scolarité de l'année, ce qui va se traduire par un petit boulot à temps partiel pendant ses études ou par de l'endettement. Ça veut subvenir à ses besoins dans le reste de l'année. 3 ans plus tard, les frais de scolarité sont rendus à 2 600 $. À 9 $50, ça prend 7 semaines à temps plein pour réussir à payer la facture. Et quand l'été est fini, puis qu'elle a payé ses frais de scolarité, évidemment, l'étudiante n'a plus une scène, puis est obligée de travailler à temps plein pendant ses études. Et de s'endetter. Et là, si on augmente les frais à la hauteur de la moyenne canadienne, 5 000 $, qui est mis de l'avant par de nombreux commentateurs et envisagé par le gouvernement, évidemment, ça va amplifier ce phénomène-là. Et en plus, il faut dire que les hausses nuisent à l'accessibilité. Donc ça, c'était les risques qui a publié ça le 8 décembre. Je trouvais ça sympathique, frais de scolarité, une hausse équitable. Puis je suis allé chercher aussi un mémoire déposé par la FNEC en 2009, excusez-moi, sur les frais de scolarité. Puis là, ben là, eux autres ici, ils vont sur la perte à l'accessibilité, mais ils voulaient aussi ils voulaient souligner en fait des arguments fallacieux qui ont cours concernant les frais de scolarité, puis je pense qu'ils sont encore vrais. Par exemple, on prétend que la fréquentation des universités ne baisse pas lorsque les droits sont élevés. Les autres, ils disent, la FNEC, ils disent, c'est faire abstraction de deux éléments importants. D'abord, l'existence de programmes contingentés qui contribuent à maintenir les taux de fréquentation. Lorsque des centaines de candidats et de candidates sont refusés en médecine, en droit ou dans d'autres facultés, on pourrait évidemment tripler les droits de scolarité sans modifier le nombre d'admises et d'admis. C'est évident. Mais la mixité sociale de ces contingents serait-elle la même? Est-ce qu'on peut négliger le fait que les études universitaires, de toute façon, représentent de plus en plus une nécessité, ce qui rend en partie les futurs étudiants partiellement captifs et obligés de payer?
Oui, mais ils n'arrêtent pas de parler de chiffres qui n'intéressent pas la droite. C'est pour ça qu'ils sont pas entendus.
L'autre chose aussi qu'on prétend, c'est et ce qui est très pernicieux selon la FNEC, c'est que des droits de scolarité modestes profitent aux mieux nantis. Il dit sous prétexte que les mieux nantis auraient les moyens de payer puis que ben là ils payent pas. Et la FNEC de revenir en disant, il faut-tu vraiment rappeler que les couches les plus riches de la société devraient déjà avoir payé une part plus importante du financement des universités avant d'arriver à l'école?
Mais oui, normalement ils devraient payer plus d'impôts. Mais non!
C'est cela!
Parce que plus t'as d'argent, plus t'as d'échappatoires.
Et on revient aussi avec le fait les faibles taux de persévérance qui sont observés dans les universités québécoises, qui ont été invoqués notamment à l'UNESCO par le gouvernement du Québec à l'appui d'une absence présumée d'effet des droits de scolarité moins élevés. On a les droits de scolarité moins élevés, on n'a pas plus de diplômés, donc ça donne rien d'avoir des frais de scolarité moins élevés. Alors la FNEC revient en disant cet argument qui établit insidieusement un lien de cause à effet entre le coût des études et la persévérance est pour le moins décevant. Devrait-on conclure au regard de la performance très moyenne de scolarisation secondaire au Québec qu'il faut imputer cette dernière à une école publique gratuite? Est-ce que c'est parce que c'est gratuit? Non, faut pas ouvrir la porte à ça, il y a des gens qui pourraient s'engouffrer.
Et voilà.
Voilà, c'était quasiment un spécial étudiant. Je m'appelle Nicolas, vous écoutiez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste de la nuit sur les ondes de Sequoia. J'étais en compagnie de...
Jeannie.
Et Farouko.
Passez une belle semaine sur les ondes de votre station de radio communautaire préférée. Profitez-en pendant qu'elle existe encore. Si vous n'êtes pas membre, c'est le temps de le faire.